Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est dans 8 jours, le 29 mars, que la Grande-Bretagne doit en principe sortir de l'Union européenne. Et quoi qu'en dise la première ministre britannique, Theresa May, cette date du 29 mars n'est absolument pas caduque. Elle a certes demandé un délai de 3 mois pour organiser une sortie ordonnée de son pays de l'Union européenne, mais il n'est pas acquis et les Européens réunis à partir de ce soir à Bruxelles ont été parfaitement clairs à ce sujet. La demande britannique est à l'étude, encore au moment où on parle, mais 1001 jours après le référendum, après des mois de négociations et de feuilletons politiques à Londres, il y a une certaine fatigue, on ne va pas se le cacher. Brexit, en finir ou pas, et comment? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Pascale Johannin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous avez dirigé le rapport Schuman 2019 sur l'Europe aux éditions Marie B. Et c'est à paraître lundi. Et Jeremy Stubbs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des conservateurs britanniques de Paris et contributeur à la revue Causeur. C'est un petit peu difficile à appréhender hein, ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant. Je vais poser une question simple, mais dont la réponse ne sera pas facile pour vous. Comment est-ce que vous analysez la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, Pascale Johannin ?
C'est assez compliqué, pour le moins dire, quand on n'est pas britannique. Un peu difficile à appréhender parce que, pour la faire courte, Madame May a négocié avec l'Union européenne un accord le 25 novembre dernier et elle n'arrive pas à le faire ratifier au Parlement britannique. Il y a eu déjà deux votes au mois de janvier et au mois de mars il y a quelques jours et en effet les députés britanniques n'arrivent pas à ça, ont rejeté l'accord de retrait qui permettrait en effet une sortie ordonnée de l'Union européenne. Dans le même temps, ils ont aussi voté pour dire qu'ils ne voulaient pas d'un Brexit sans accord. Et donc aujourd'hui, à 8 jours du gong, qui est le deuxième anniversaire du moment où Madame May a introduit l'article 50 qui permet la sortie de l'Union, elle l'a fait le 29 mars 2017. C'est pour ça que la sortie théorique, c'est le 29 mars prochain. Elle a officiellement demandé hier au président du Conseil européen un report pour essayer de trouver, on ne sait pas trop comment, mais Jérémy peut-être va nous le dire, une solution miracle, un petit sortant d'un chapeau magique, pour essayer de trouver une solution avant, en effet, les élections européennes du mois de mai prochain.
Jeremy Stubbs, est-ce que Theresa May a un lapin dans son chapeau pour faire avancer son idée, qui est donc de faire accepter son accord avec l'Union européenne pour sortir donc dans 3 mois, c'est ce qu'elle demande.
Oui, la situation, oui, elle semble confuse, mais on peut comprendre ce qui se passe quand on pense en termes de stratégie de négociation, parce que tout est là-dedans. Il est vrai que, comme l'a dit Pascal, un accord a été négocié en novembre. Et on attend toujours que cet accord soit ratifié. Et on dit que, voilà, les parlementaires britanniques sont divisés. C'est normal, il n'y a pas de parlement où tout le monde pense de la même façon. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a eu un vote sur cet accord positif, qui était de dire que le parlement voterait pour cet accord, en faveur de cet accord, s'il y avait un changement à la fameuse clause sur le filet de sécurité, le backstop. Tout est dans les aspects techniques de cette question de droit international.
C'est une question d'interprétation de l'accord ?
C'est une question d'interprétation et aussi, les Européens ont fait une concession au dernier moment en ajoutant un instrument d'interprétation juridique. Le problème, c'est que, et là, il faut comprendre les stratégies de négociation, les deux parties jouent la montre. Et les Européens ont attendu pendant des semaines avant de donner cette concession à la 11e heure, juste avant le lendemain, le débat là-dessus au Parlement, en voulant, bien sûr, mettre la pression. C'est normal. Le problème, c'est que l'interprétation de ces mécanismes est tellement subtil que les députés, qui ne sont pas tous des juristes, et encore moins des spécialistes du droit international, n'ont pas eu le temps de comprendre.
Il faut dire que cet accord, c'est 600 pages, hein, et le protocole additionnel, c'est quelques pages en plus, mais enfin, c'est pas si évident, comme vous le disiez. Hein.
Non, même si le protocole sur le filet de sécurité ne fait pas 600 pages.
Oui, absolument. Pascal Johannin, puisqu'on parle de stratégie de négociation, forcément, on parle de rapport de force. Qui est en position de force au moment où on parle? Ce sont les Européens, ce sont les Britanniques, ou une partie des Britanniques, Theresa May, les députés. C'est compliqué.
L'Europe, dans cette affaire, a une très petite carte à jouer, puisqu'elle a négocié un accord, et que maintenant, c'est aux Britanniques de dire ce qu'ils veulent. Donc, Madame May pensait que l'accord qu'elle avait négocié, elle pourrait le faire passer aisément au Parlement britannique. Il a fallu qu'elle en rabatte. Et donc, elle n'y est pas parvenue. Elle l'a essayé par deux fois. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le président de la Chambre des communes lui a dit qu'elle ne pourrait pas refaire voter sur cet accord une troisième fois, ressortant des archives quelque chose de 1604, si je ne me trompe pas.
Début du 17e siècle,
voilà.
C'est ça, oui.
Et
c'est
donc, 1604. Si elle veut le faire voter, il faut qu'il y ait un changement substantiel ou quelque chose qui permettrait à créer une nouvelle session. Et là, seul le chef de l'État britannique, c'est-à-dire la reine, peut le faire. Et donc, on voit quand même que c'est de plus en plus, en effet, une stratégie de négociation, mais qui amène des difficultés dans une démocratie britannique qu'on a connue plus apaisée. Et on voit bien que là, la mer est agitée.
Jeremy Stubbs, oui, allez-y.
Oui, j'allais dire que il y a probablement un mécanisme par lequel le gouvernement va ramener cet accord devant le Parlement la semaine prochaine. Il y a quand même une logique, c'est-à-dire que la première fois, les députés ont voté sur l'accord tel quel. La deuxième fois, ils ont voté après un changement. Le problème, c'est qu'ils, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas eu le temps pour comprendre ce changement qui est beaucoup plus important qu'on ne croyait. C'est ça qui sera la différence. Et c'est là où le président de la Chambre crée des difficultés. Donc, la dernière carte de Theresa May, c'est de ramener cet accord devant le Parlement dans un contexte où tout le monde aura eu le temps vraiment de comprendre. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est concevable.
Est-ce que le fait de rajouter un délai, quelle qu'en soit la durée, et on va en reparler, elle demande 3 mois, les Européens apparemment sont plutôt sur 7 semaines, ou alors beaucoup plus long, est-ce que le fait de le ramener ce même accord avec un délai, ça pourrait être un changement qui pourrait inciter le Speaker, le président de la Chambre, John Bercow, à le laisser revoter?
Non, je pense que Bercow n'est plus tellement le problème. Il y aura un mécanisme pour le contourner. Il faut voir que Theresa May et les Européens ont une chose en commun. Il y a un domaine où ils jouent la même stratégie, c'est-à-dire tous les deux veulent mettre la pression sur les députés britanniques pour voter cet accord la semaine prochaine. Et c'est pour ça que personne ne va accorder un délai très long en ce moment, sinon ça encouragera les députés à ne pas voter.
Est-ce qu'on peut raisonnablement penser, Pascal Johannin, qu'un texte qui a déjà été rejeté largement par deux fois peut passer cette fois-ci une troisième fois?
Alors, c'est difficilement compréhensible, en effet, mais en effet, moi, je ne connais pas toutes les arcanes du droit britannique, qui est un droit non écrit, il faut le rappeler. Hein, Et donc, on a
un peu écrit, un peu non écrit, ça dépend.
Mais on a quand même une difficulté à imaginer que le Parlement souverain vote une fois, et puis on lui dit non, tu n'as pas bien voté, on revote une deuxième fois, non, tu n'as pas bien voté, on vote une troisième fois. Là, visiblement, Madame May a eu une erreur de stratégie pour le coup, où elle n'a pas essayé dès le début de vendre l'accord qui était celui qu'elle avait négocié, qu'elle estimait être celui qui est le meilleur et qui permettrait en effet de faire une sortie ordonnée, c'est-à-dire on sort de l'Union, on a déjà une roadmap, une feuille de route pour la suite, et on peut donc négocier, ce qui est quand même la clé pour Madame May et les Britanniques, la relation future qu'on aura, et on se donne un certain temps. Donc ça, c'était elle l'a signé, donc c'est pas quelque chose qui a été contraint et forcé par les Européens. Aujourd'hui, elle a en effet une difficulté. J'entends bien que il est possible, tout est possible dans le palais de Westminster, mais on voit mal comment, dans le laps de temps qui reste, il y a en effet peu de chances, ou tout du moins les chances sont minimes pour que ça puisse arriver. Et donc les Européens ont bien entendu la demande de report. Je pense qu'ils vont lui donner un oui, mais un oui peut-être mais avec des conditions, parce qu'en effet il y a une question qui doit être tranchée sur ce report. C'est où en effet Madame May et les subtilités de la procédure parlementaire permettent en effet que cet accord soit ratifié avant les élections européennes qui ont lieu du 23 au 26 mai. Et donc là, pas de problème. Mais si en effet, d'ici là, cet accord n'a pas été ratifié, parce qu'il faut comprendre en effet, il faut que le parlementaire ait le temps de comprendre toute la subtilité de l'accord de protocole additionnel qui a été négocié le 11 mars. Mais si en effet c'est pas fait au moment où il y a les élections européennes, qu'est-ce qui se passe? Parce que si le Royaume-Uni n'est pas un État tiers, il reste un État membre et il faudrait qu'il fasse des élections européennes, ce que Madame May et les Britanniques se refusent à faire à ce jour.
Alors, Jeremy Stubbs, quelle durée a besoin Theresa May pour faire passer cet accord?
Non, mais là, on connaît tout ça. Mm-hmm. On connaît tout ça. Ce qui est en ce moment le plus probable, on en a entendu parler, parce qu'il y a des subtilités des deux côtés de la Manche. Hein, il y a des subtilités. On va accorder au Royaume-Uni un report jusqu'au mois de mai si la semaine prochaine l'accord de Theresa May est voté.
Et approuvé. Et
voilà. Donc, si cela arrive, tout est bon, on n'a plus de problème, une nouvelle ère commence. Mais, si ce n'est pas voté, à mon avis, il y aura un conseil extraordinaire de l'Union européenne.
C'est tout à fait possible.
Qui va sortir une autre carte. On voit déjà, vous connaissez l'expression « good cop, bad cop ».
Oui.
On voit déjà que...
Alors je le traduis en français, « bon flic et mauvais flic ».
Voilà.
Voilà.
C'est-à-dire il y a toujours celui qui joue le gentil et celui qui joue le méchant pour influencer. Eh bien, on voit déjà que on a M. Macron qui joue le bad cop,
le méchant,
en disant
« si
nécessaire, on va faire une sortie sans accord ». Et derrière, il y a Madame Merkel qui joue la good cop, qui dit « Oh oui, mais il faut ménager les Britanniques, il ne faut pas une sortie sans accord. » Donc on va avoir d'abord, tout ça c'est programmé, on va avoir d'abord le message Macron, et si nécessaire, après le message Merkel.
Et on est toujours dans la stratégie de négociation que vous, que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que la possibilité d'un délai beaucoup plus long peut être quelque chose qui s'entend à Londres, selon vous, Pascal Johannes?
Alors, je ne sais pas si ça s'entend à Londres, mais je pense que rien ne l'empêche aujourd'hui. Et contraint, enfin, dans une situation qui est celle qu'on connaît, c'est-à-dire à l'ultime bout d'un parcours où on se retrouve à 8 jours d'une sortie théorique et pas de possibilité de trouver cet accord. Si en effet ça n'est pas possible dans le délai que nous indique Jeremy Stubbs, il va falloir qu'on fasse peut-être plus long. Mais je pense que ça n'est pas impossible. C'est pas peut-être souhaité, mais c'est pas impossible. Et vous avez vu aujourd'hui, je rebondis là-dessus, sur le fait qu'il y a cette pétition qui a été signée par plus d'un million de citoyens britanniques.
On en est à 1 300 000 ce soir.
Dont certains sont très célèbres, qui disent « ça suffit ! Il faut que ça finisse, on peut plus continuer cet épisode avec un feuilleton qui est aussi palpitant peut-être que les séries télévisées qu'on a connues, mais il y a un moment, il faut que il y a une fin dans les séries télévisées, il y a la dernière saison, donc il faut que cette saison, et c'est ce qu'ils nous disent, donc, et là il y a un mouvement quand même d'ampleur qui est quand même significatif, parce que tout ça se fait devant, cette pétition est devant le Parlement, et il y a des règles aussi qui sont que quand il y a un certain nombre de citoyens qui s'expriment, le Parlement ne peut pas en tenir compte.
Alors, Jeremy Stubbs, un abandon pur et simple du Brexit, comme le demande cette pétition, qui a d'ailleurs fait tomber le serveur du Parlement ce matin,
hein,
qui est donc signé par plus d'1 300 000 personnes en moins de 24 heures au moment où on parle. Est-ce que un abandon pur et simple du Brexit est encore possible selon vous?
Il n'y aura pas de révocation de l'article 50, certains en rêvent. S'il y a une annulation du Brexit, c'est au bout d'un chemin encore assez long. Il faudrait sans doute un référendum, pour organiser le référendum, c'est au moins 6 mois. Je pense que avant cela, il faudrait des élections générales. et un changement considérable dans le paysage politique.
Ouais, il faut repasser par les urnes à ce stade, parce que est-ce que Theresa May, elle a encore la légitimité politique après deux échecs, après tout ce qu'elle a vécu, de faire passer son accord, sa politique?
Avant que l'émission ne commence, j'avais évoqué une partie d'échecs célèbres où le gagnant a sacrifié toutes ses pièces pour gagner. Elle a sacrifié presque toute son autorité. Tout est misé sur un dernier vote à la Chambre des communes la semaine prochaine. Moi, je pense que ce serait même un avantage si elle promettait de démissionner avant le vote en échange de l'approbation de son accord.
Ça s'appelle faire tapis. Pascal Johannin, est-ce que cette possibilité de revenir aux urnes, ça vous paraît être peut-être une bonne solution pour en sortir, quoi, tout simplement?
Bah, de toute façon, il y a ça qui en rêve. Alors ça, c'est le pari de l'opposant de Madame May travailliste, ouais. Jeremy Corbyn, qui lui aussi a des divisions au sein de son parti. Il ne faut pas croire que c'est un monolithe, le parti travailliste, et qu'il y a une ligne qui est...
Les deux partis sont très fracturés.
Ce qui était un peu la chance de Theresa May depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, c'est que personne ne voulait vraiment le poste qu'elle occupe, parce que il faut mettre en place cette politique, et on a vu des noms passés. Mais je pense qu'en effet, c'était la seule qui était là. Elle a montré quand même un certain courage, un certain... Mais oui, là, aujourd'hui, pense en effet, je rejoins Jeremy, c'est que là, en effet, son avenir politique personnel est fortement compromis. Et que donc, en effet, le Premier ministre qu'elle est a une durée de vie périssable. Alors, avec un vote qui pourra avoir lieu prochainement ou à plus long terme. Et de toutes les façons, en effet, les élections en Grande-Bretagne, ça fait partie de la règle démocratique number one. Et donc, si en effet le blocage est tel un jour qu'il faille en revenir aux urnes, mais là, en effet, ça, c'est une autre partie.
Jeremy Stubbs, je vous pose la question que j'ai posée à propos de l'abandon pur et simple du Brexit. Est-ce qu'il existe réellement un espoir parmi les Brexiteurs de renégocier cet accord au moment où on parle? Ça existe encore, ou ils ont compris que du côté des Européens, c'était
non,
ça et pas autrement?
Non. Leur alternative de choix, c'est une sortie sans accord. Et bien sûr, ils ne font pas la majorité là-dessus. Donc, ce sont les Brexiteuses qu'il faut convaincre de voter pour l'accord de Madame May. Ils sont peut-être prêts à le faire. C'est ça la version la plus apaisée de la chose, c'est qu'on vote l'accord de Madame May. Madame May démissionne avec élégance et sera une héroïne, une sorte de Jeanne d'Arc de l'autre côté de la Manche pour toujours. Et quelqu'un d'autre s'occupe de la négociation de la relation future.
Qui a le plus à perdre à un Brexit sans accord, Pascal Johannin? C'est difficile comme question.
Je crois que dans le Brexit sans accord, il n'y a que des perdants. Alors d'abord peut-être le Royaume-Uni en premier chef, parce que toutes les études qui ont été faites par les meilleurs instituts de prévision, les meilleures organisations,
la Banque d'Angleterre elle-même,
voilà, montrent qu'en effet c'est ce qui coûterait le plus au Royaume-Uni, mais tous les partenaires du Royaume-Uni, puisque en effet le Brexit sans accord, le Royaume-Uni devient un État tiers dépendant de l'OMC, il faut donc reconstruire pour chaque État qui a des relations avec le Royaume-Uni, donc l'Union européenne bien sûr, mais les États-Unis, la Chine, etc. Et tous ces gens-là se trouvent devant une zone un peu noire. C'est comme si on est dans l'espace et qu'on va au-delà de ce qu'on connaît. On ne sait pas dans quoi on saute, sans parachute et sans élastique. Et donc c'est le trou noir, c'est le cliff edge comme vous le dites. Et donc c'est très compliqué. Et donc en effet c'est la solution la plus pourrie qui soit, mais c'est peut-être aussi celle qui arrivera par défaut, parce qu'on n'arrivera pas en effet à faire l'accord, ou qu'il n'y ait pas de report qui permettrait d'aller plus loin pour négocier quelque chose temps.
Oui. Jeremy Stubbs, en quelques secondes, qui a le plus à perdre?
On a lu dans le Figaro aujourd'hui que ce serait 54 milliards par année du côté britannique et 44 du côté européen, mais répartis entre 27 pays.
Merci beaucoup Jeremy Stubbs et Pascal Johannin d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Valentin Vaner, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.